C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, en écoutant cette émission, vous ne regarderez plus les plantes qui vous entourent de la même manière. Elles sentent, elles voient, elles communiquent, elles apprennent, elles captent et même elles émettent des sons. Contrairement au monde animal, elles ne peuvent pas fuir l'adversité, elles doivent donc s'adapter en permanence à leur environnement et nous avons beaucoup à apprendre de leur comportement. C'est votre thèse en tout cas, Stefano Mancuso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes accompagné de Olivier Favier, je le précise pour la traduction. Vous êtes fondateur de la neurobiologie végétale et vous êtes professeur à l'université de Florence en Italie. En 2013, avec votre livre « L'intelligence des plantes » traduit aujourd'hui dans plus de 20 langues, vous aviez révélé les capacités insoupçonnées des plantes, en tout cas insoupçonnées pour le grand public. Et là, vous récidivez avec « La révolution des plantes », comment les plantes ont déjà inventé notre avenir. C'est publié chez Albin Michel. Alors, vous débutez votre livre par une sorte de plaidoyer dans lequel vous rappelez que nous, les humains, nous sommes intimement liés pour notre survie aux plantes qui nous entourent, mais souvent on l'oublie.
Si, è proprio così.
Oui, c'est vraiment comme ça. Nous oublions que nous sommes complètement dépendants des plantes.
La
dépendance des plantes aux plantes pour la planète entière est tellement forte
que
nous pourrions dire que même l'idée que nous avons de notre planète, cette image que nous avons toutes très clairement de cette sphère bleue, blanche et verte,
toutes
ces trois couleurs, c'est le bleu de l'aqua, le blanc de l'eau, le blanc des nuages et du vert des plantes, tout ça dépend des plantes. Sans les plantes, notre planète serait complètement privée de vie. Ça serait quelque chose de semblable à Mars. C'est facile à comprendre combien nous avons besoin des plantes. Voilà, pour comment est forte cette dépendance pour les hommes et les animaux.
Et pourtant, nous avons plus d'empathie et d'intérêt spontané pour les animaux que pour les plantes, et ça vous énerve.
Si, certo.
Oui, bien sûr. Ça m'énerve beaucoup. Parce que nous, les animaux, nous représentons seulement 0,3% de tout ce qui est vivant. Tandis que les plantes, à elles seules, représentent 85%. C'est quelque chose d'étrange dans notre incapacité de voir la vraie vie du planète, comme elle fonctionne.
Alors vous citez le botaniste Francis Darwin, le fils du naturaliste Charles Darwin, qui déclarait dès le 19e siècle que les plantes sont douées d'une intelligence identique à celle des animaux. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, exactement. Que l'intelligence des plantes, ça dépend comment elle se définit.
Alors, nous, on définit
toujours comme l'intelligence, comme quelque chose qui regarde seulement nous les hommes, ou à la limite quelques animaux qui nous ressemblent un peu, qui sont proches, très proches de nous. En fait, l'intelligence est la capacité à résoudre des problèmes. Et alors, si nous regardons à la vie entière, de ce point de vue, nous comprenons que tous les êtres vivants doivent être intelligents. Et dans le cas des plantes, elles le sont particulièrement. Et cela a été démontré
en
faisant la conquête de l'entière planète. 97,7% de la vie par rapport aux 0,3% des animaux, c'est la donnée réelle qui nous explique leur réel succès, aussi de ce point de vue.
Alors tout dépend, comme vous le dites, de ce que l'on entend par intelligence. Vous dites les plantes ont de la mémoire, elles sont capables de communiquer, elles ont des stratégies de défense.
Si, certamente.
Oui, bien sûr.
Les plantes ont
tout cela
et
elles ont davantage.
Toutes ces
Toutes ces capacités et caractéristiques des plantes sont connues par, en partie par très longtemps. D'autres sont des découvertes scientifiques récentes. Par exemple, le fait que sont en manière de mémoriser et d'apprendre, c'est quelque chose qui est très neuf. C'est quelque chose que nous avons découvert dans mon laboratoire il y a 4 ans.
Mais
quand on voit ces capacités, on comprend que les plantes n'ont rien à envier aux animaux. Elles sont une forme de vie différente. Pour la comprendre, nous ne devons pas regarder les plantes comme si elles étaient des animaux qui manquent quelque chose. Mais sont une forme de vie différente qui a réussi à atteindre les mêmes résultats, mais par un chemin différent.
Alors, dans vos livres, vous donnez des exemples pour expliquer cette intelligence des plantes. Vous expliquez, par exemple, que les plantes se parlent, et là, on peut prendre des exemples concrets. Vous citez la tomate ou le haricot de Lima.
Oui, bien sûr, les plantes ont une capacité de communiquer qui est incroyable, dont on ne savait rien jusqu'à peu de temps. Un groupe de plantes subit un stress de quel qu'en soit le type. Ça peut être par un animal, par exemple, où il fait trop chaud, il fait trop froid, où il y a l'oxygène, où l'eau se met à manquer, où il y a des pollutions. Toutes ces informations, elles les échangent avec toutes les plantes qui les entourent. De façon que ce groupe de plantes puisse commencer à mettre en place toutes les procédures de défense qu'elles utilisent pour survivre mieux.
Alors, elles les échangent comment ?
C'est basé sur des molécules chimiques volatiles, comme nous échangeons des informations à travers les sons. Les plantes échangent des informations à travers des molécules chimiques. Ces molécules chimiques qui voyagent dans l'air sont différentes. Chacune d'elles représente un mot dans le message.
Alors, vous donniez ce que je disais, l'exemple du haricot de Lima, par exemple.
Oui. Cet haricot de Lima est un haricot très différent de celui qu'on utilise pour manger, ou celui qui est sauvage, qui pousse dans la forêt. Il a donc toutes les capacités encore que les plantes domestiques perdent.
Ce
haricot de Lima, quand il est attaqué par un insecte qui commence à manger les feuilles, il envoie des messages qui rappellent l'ennemi de cet insecte, une guêpe qui l'attaque et qui le tue, en fait.
Et donc il met en acte
une vieille stratégie aussi humaine qui dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami.
Alors, Stefano Mancuso, dans votre dernier livre, vous démontrez les capacités méconnues de nombreuses plantes dont nous pourrons nous inspirer. On va y revenir. Vous parlez par exemple de la capacité de nombreuses plantes à gérer l'eau. Vous citez l'exemple des pommes de pin ou des cactus. C'est-à-dire qu'elles savent gérer le stress hydrique d'une manière incroyable.
La capacité, par exemple, de résister à la sécheresse,
à la
pauvreté de l'eau dans le sol. Dans les plantes, ça ramène des choses extraordinaires. Pensons par exemple au cactus. Le cactus fait entrer la photosynthèse durant la nuit pour ne pas perdre de l'eau.
Et non solo, leur
corps est fait de manière à condenser l'eau atmosphérique
qui se condense
sur son corps et qui est ensuite absorbée par la plante.
Si
on réussissait à imiter cette capacité de condenser l'eau atmosphérique, nous pourrions réussir à produire beaucoup d'eau, dans des zones où il n'y en a pas du tout.
Parce qu'en fait, c'est la forme même des cactus qui font qu'il y a une surface sur laquelle se dépose la condensation.
Exactement.
Exactement.
Et la forme,
aussi les épines des cactus sont... elles ne servent pas seulement à la défense,
mais
elles servent aussi pour commencer le processus de condensation de l'eau.
Comme vous le disiez, ce cactus fait de la photosynthèse la nuit. Est-ce que la nuit, comme ça, il utilise moins d'énergie?
Si. Oui. Donc, toutes les plantes ont un problème avec la photosynthèse.
Toutes les plantes ont eu un problème avec la photosynthèse. Quand elles ouvrent les stores, quelles sont les ouvertures sur les feuilles pour faire entrer l'anhydride carbonique qui permet la photosynthèse, dans le même temps, elles perdent de l'eau.
Alors,
le cactus a appris
à faire entrer
l'anhydride carbonique de nuit,
quand
on ne perd pas de l'eau,
et ensuite
à l'utiliser le jour quand il y a le soleil. C'est une révolution incroyable dans la capacité de pouvoir faire de la photosynthèse dans des conditions de stress hydrique.
Vous parlez aussi de l'art de l'imitation des plantes. C'est un moyen pour elles de se protéger, parce que les plantes, à la différence des animaux et de nous, les humains, ne peuvent pas se déplacer. C'est ce que vous dites dans votre livre, en fait. Il faut qu'elles s'adaptent à leur environnement, qu'il soit accueillant ou hostile. Et du coup, par exemple, parfois elles imitent un peu à l'image des caméléons. Pour se protéger.
Oui, c'est vrai. Les plantes, n'ayant pas la possibilité de se déplacer, ont commencé
une série
extraordinaire de capacités pour se défendre. Par exemple, la mimésis, l'imitation, est une des plus importantes. Il y a beaucoup de plantes grimpantes
qui imitent
les feuilles de la plante sur laquelle elle pousse. Et de cette manière, elles parviennent à échapper aux prédateurs.
Alors, vous dites aussi que les plantes sont manipulatrices, et même nous, les humains, finalement, nous en faisons les frais. Vous donnez l'exemple du piment.
Il peperoncino
le piment est un classique exemple de cela. Les animaux, il n'y a pas d'animaux qui mangent le fruit du piment.
Ça pourrait sembler
un paradoxe parce que les plantes produisent les fruits pour qu'ils soient mangés par les animaux.
Pourquoi
cette plante produit ce fruit qui n'est pas mangé par les animaux? Parce qu'il est fait exprès pour nous. Parce que nous sommes le diffuseur de ce fruit dans le monde. Nous sommes les seuls animaux qui réussissons à apprécier le piquant.
Et pourquoi est-ce qu'on apprécie ce piquant? Il y a des concours incroyables d'ailleurs où les gens cherchent à manger le piment le plus piquant possible.
C'est
une autre histoire incroyable parce que quand nous mettons du piment sur la langue, nous activions les mêmes récepteurs de la douleur, de la souffrance, qui s'activent que quand on met un fer chauffé au rouge sur la langue. Ce sont les mêmes récepteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible que ça nous plaise une chose comme ça? Parce que notre cerveau, en sentant cette douleur, produit des endorphines. C'est une drogue qui sert à ne pas faire sentir la souffrance, possiblement, et qui a une capacité similaire à celle des opiacés, en fait.
Voilà, et c'est pourquoi un tiers de la population mondiale aime manger le piment, même si ça brûle la bouche. Alors, on le disait, l'une des distinctions majeures entre les plantes et les animaux, c'est que les plantes sont immobiles, enfin presque, parce que vous démontrez dans votre livre qu'il y a certaines plantes qui arrivent à se déplacer, mais c'est aussi qu'elles ont des racines. Et ces racines leur permettent justement de découvrir leur milieu en profondeur. Et c'est là où finalement est leur cerveau. Enfin, c'est pour simplifier un peu ce que vous écrivez.
Si, oui. Quand
nous regardons une plante, normalement, nous oublions que sous terre, il y a au moins autant qu'il y en a de masse qu'il y en a au-dessus. Très souvent, il y en a même souvent plus. Cette partie souterraine est la partie probablement plus intéressante parce que c'est la part qui doit explorer le terrain. Elle doit dépasser les obstacles. Elle doit résister à une série de stress très forts. Par exemple, quand il n'y a pas d'eau, ou qu'il n'y a pas d'oxygène,
ou
qu'il y a des obstacles à dépasser.
Si
on regarde dans la manière dont les racines naviguent dans le terrain et résolvent les problèmes, nous apercevons que là, que c'est vraiment là qu'existe la partie cognitive de la plante, ou quelque chose qui est semblable vraiment à la capacité de notre cerveau.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Bend, little willow, wind's gonna blow you hot and cold tonight. Life as it happens, nobody warns you, willow, hold on tight. Nothing's gonna shake your love, take your love away. No one's out to break your heart, it only seems that way. Hey, sleep, little willow, peace gonna follow. Time will heal your wounds. Grow to the heavens now and forever, always came too soon. Bend, little willow, wind's gonna blow you hard and cold tonight. Life as it happens, nobody warns you, willow, hold on tight.
Nous sommes avec Stefano Mancuso, fondateur de la neurobiologie végétale et professeur à l'université de Florence en Italie, qui vient de publier La révolution des plantes, comment les plantes ont déjà inventé notre avenir, chez Albin Michel. Stefano Mancuso, vous nous avez énuméré de nombreuses facultés des plantes. Maintenant, ce que vous démontrez dans votre livre, c'est que toutes ces capacités peuvent nous être utiles à nous, humains, face aux défis du XXIe siècle et notamment à la crise écologique que nous devons affronter. Alors notamment par le biais du biomimétisme, c'est-à-dire cette capacité d'imiter ce que la nature a inventé pour créer des matériaux qui pourraient nous être utiles. On s'inspire beaucoup des animaux et un peu moins des plantes. Vous vous dites qu'il faudrait rééquilibrer les choses.
Si, certo.
Oui, bien sûr.
Finora, diciamo, noi abbiamo,
jusqu'à maintenant, nous avons toujours essayé d'imiter seulement les animaux pour avoir des solutions aux problèmes qui nous concernaient. À partir de Leonardo da Vinci, si on veut voler, il faut imiter les oiseaux. Si on veut aller sous l'eau, il faut imiter les poissons.
Et quindi, noi abbiamo sempre guardato agli animali
come fonte di ispirazione. regarder les animaux comme comme source d'inspiration. Les plantes aujourd'hui sont une mine de possibilités et de résolution de problèmes qui nous intéressent. Prenons le problème de l'énergie, par exemple. Si on réussissait à imiter le processus de la photosynthèse, un processus donc qui en utilisant la lumière du soleil et l'anhydride carbonique de l'air produit des sucres. C'est un produit, quelque chose que nous pourrions utiliser pour faire rouler nos voitures, par exemple. Nous aurions résolu tous nos problèmes énergétiques pour toujours. Et ça, c'est un parmi des milliers d'exemples que nous pourrions prendre. Regarder les plantes comme une source d'inspiration.
Et d'ailleurs, dans votre laboratoire de neurobiologie végétale, vous faites des inventions, hein, vous travaillez avec d'autres chercheurs du monde entier et vous avez inventé la jellyfish barge. Si. Alors, parlez-nous de cette invention.
Alors, la jellyfish barge,
est une serre qui flotte. Aujourd'hui, nous avons trois problèmes importants. Il n'y a pas assez de sol à cultiver.
Non c'è acqua dolce.
Il n'y a pas vraiment qu'on manque de d'eau douce pour cultiver.
Et l'énergie. Et l'énergie qui sert pour cultiver
est toujours aussi, pratiquement toujours d'origine fossile, donc c'est très polluant. Nous avons produit cette serre flottante qui flotte sur la mer. Elle n'a pas besoin de sol pour être cultivée. Elle n'a pas besoin d'eau douce parce qu'elle est capable de dessaler l'eau de la mer
pour
faire pousser les plantes à l'intérieur.
Et non ha bisogno di nessun tipo di energia.
Elle n'a besoin d'aucune énergie excepté celle du soleil.
E quindi diciamo senza suolo,
sans sol, sans eau douce, sans énergie, c'est possible de produire des choses qu'on peut manger pour 8 personnes avec une seule de ces jellyfish barges.
Quand vous dites qu'il n'y a pas besoin d'eau, c'est parce que vous utilisez la condensation naturelle, vous reproduisez cette condensation finalement ?
Oui, c'est exactement cela. Nous reproduisons pratiquement le processus naturel de l'évaporation, de condensation de l'eau pour la rendre potable, pour la rendre sans sale, la dessaler. Il est clair que pour faire cela, nous avons développé un système, ce processus très très efficace.
Une seule
jellyfish barge avec les conditions climatiques de la Méditerranée.
Quindi a livello d'Italia,
del
Mediterraneo italiano, produce 220 litri di acqua al giorno.
Elle produit 220 litres d'eau par jour.
Via via che scendiamo verso l'equatore,
più on descend vers l'équateur,
quindi abbiamo una maggiore quantità di
et
sole.
La
quantità di acqua aumenta molto. La quantità d'eau
augmente beaucoup. On peut arriver jusqu'à 400 litres au jour.
Si può coltivare qualunque cosa.
Et avec ça, on peut cultiver n'importe quoi.
Et quand vous dites pas de sol, dans quoi poussent les légumes ?
Si, non c'è suolo perché
il n'y a pas de sol parce que toutes les plantes sont cultivées de manière hydroponique.
In una soluzione
dans une solution qui circule,
sans aucune
nécessité d'avoir un sol en fait.
Alors, cette jellyfish barge a remporté de nombreux prix, mais aujourd'hui, voilà, elle reste un peu prototype dans un laboratoire.
Si. Oui, jellyfish barge a
remporté tous les prix possibles et imaginables. Des Nations Unies nous ont donné, je ne sais pas combien de prix. Je les ai oubliés, en fait, parce qu'il y en avait trop.
Mais
elle n'est jamais rentrée vraiment en production, parce que malheureusement,
un cespo d'insalata.
Une salade
produite
par jellyfish
coûte 30%
de plus que coûte une salade au supermarché. mais
nell'insalata del supermercato,
dans la salade de supermarché,
non ci sono tutti i costi ambientali.
Il n'y a pas tous ces coûts environnementaux.
Si on considère
ces coûts environnementaux,
l'insalata prodotta con jellyfish barge
coûterait 60% de moins.
Oui, c'est le principe de nombreux produits. C'est vrai que le coût environnemental n'est jamais inclus. Alors si on sort un peu du biomimétisme basique, c'est-à-dire imiter ce que fait la nature et qu'on prend un petit peu de hauteur, vous dites aussi que les plantes, contrairement aux animaux ou aux humains, c'est une intelligence décentralisée.
Si.
Et que cette intelligence décentralisée pourrait aussi nous inspirer. Et d'ailleurs, on le voit déjà, elle nous a déjà inspiré sans que nous le sachions vraiment avec Internet.
Si, exactement.
Exactement.
Nous sommes des animaux,
nous avons un corps
qui est construit avec une tête, un cerveau,
qui gouverne des organes.
Et nous avons reproduit cette architecture hiérarchique
en tout ce qui nous concerne. N'importe quelle organisation humaine est faite de cette manière.
De manière verticale.
Verticale, comme notre corps. Et questo tipo di organizzazione ha beaucoup de problèmes. Sono fragili.
Ça fait naître la bureaucratie.
E tanti altri.
E plein d'autres choses.
Nelle piante, dans les plantes, organizzazione orizzontale diffusa senza centri di comando,
sans centre de commandement,
qui estremamente robuste.
Per cui
si può distruggere
on peut détruire 90% du corps d'une plante et elle continue à vivre.
Et c'est pour cela que ce que l'homme est en train de faire, par exemple, comme Internet, c'est vraiment construit comme une plante. Tout ce qui est diffusé de manière décentralisée.
Est le signe même de la modernité.
Et c'est aussi le signe de l'intelligence collective, et vous dites que c'est cela qu'il faudrait peut-être retenir des plantes, c'est cette capacité justement à faire ensemble sans une logique verticale, et que ça nous rendrait plus forts pour le 21e siècle et les défis qui se profilent et qui s'aggravent.
Je pense que s'inspirer de l'organisation des plantes soit une des possibilités, une des réponses de l'humanité aux problèmes des prochaines années.
Dans les plantes, l'idée, la communauté, est beaucoup plus importante que le singulier, que l'individu.
Tous les animaux ont la particularité,
un accent sur le singulier, sur l'individu.
Alors que les plantes, par nature, parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer.
Pour elles, c'est fondamental d'avoir une communauté, un toile autour d'eux, un réseau.
Tout leur développement et leur évolution a été poussé vers cette capacité de créer des réseaux, des communautés avec lesquelles elles peuvent vivre et rester ensemble.
Moi, je pense que c'est une grande possibilité pour nous.
Si nous réussissons à étudier et à comprendre l'importance de la communauté qu'elle pourrait avoir aussi pour nous, ça pourrait être un grand résultat pour notre futur.
Merci beaucoup Stefano Mancuso d'être passé dans Ces pas du vent. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La révolution des plantes, comment les plantes ont déjà inventé notre avenir. C'est publié chez Albin Michel et merci à Olivier Favier pour la traduction.
Merci.
Merci.
C'est pas du vent.
On a des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus et puis en fait elle commence un petit peu à être sur le côté et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule, et tout va s'effondrer.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ça, c'est un point de basculement qui fait qu'on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant et on ne peut pas revenir en arrière.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de l'intelligence des plantes qui, comme nous l'expliquait Stefano Mancuso, sont capables de percevoir ce qui les entoure et même de communiquer avec leurs voisins. Comment est-ce possible puisqu'elles n'ont pas de cerveau, me direz-vous ? Eh bien, ça se passe autrement, comme vont nous l'expliquer nos invités. Bonjour Philippe Regnault, vous êtes biologiste et professeur à l'université du littoral de la Côte d'Opale. Le langage des plantes, c'est quand même un mystère hein, pour la plupart d'entre nous.
Oui, parce qu'il n'est pas perçu de façon spontanée. C'est vrai qu'on a une idée du langage qui nous est propre. Et puis le langage des plantes, c'est quelque chose qui a sûrement questionné l'humanité depuis la nuit des temps. Et puis on est à une époque où dans ce domaine-là, mais comme dans pas mal d'autres domaines, on arrive à en déchiffrer quand même suffisamment de mécanismes pour avoir une idée un petit peu plus concrète, un petit peu plus intime de ce qui se passe quand les plantes communiquent, soit entre elles ou avec les autres organismes.
Alors on va y revenir. Yvan Crépiel, vous êtes maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous étudiez la manière dont les plantes perçoivent leur environnement et s'adaptent à leur milieu. Alors par exemple, elles sont capables de percevoir beaucoup de choses par rapport à la lumière.
Oui, par rapport à la lumière, elles adaptent leur moment, le moment où elles vont fleurir, elles adaptent leur croissance aux conditions de l'environnement lumineux, mais pas seulement, elles perçoivent aussi la température, elles perçoivent la gravité, ce qui leur permet de pousser vers le haut pour les tiges, vers le bas pour les racines. Elles intègrent donc toutes ces informations au cours de leur croissance.
Comment elles captent en fait ces données ?
Alors, pour certains signaux, on commence à bien connaître les mécanismes. Par exemple, pour la perception de la lumière, il y a un certain nombre de photorécepteurs qui fonctionnent un peu comme les récepteurs de notre rétine, qui vont percevoir les photons de la lumière et qui vont déclencher des réactions. Et en particulier, elles déclenchent des mécanismes de synthèse ou de transport d'hormones qui viennent réguler ensuite la croissance des plantes.
Voilà, les plantes, elles aussi, ont des hormones. Et elles sont capables aussi de percevoir la sécheresse ou au contraire l'excès d'eau.
Oui, c'est extrêmement important parce que la présence d'eau est indispensable à la vie et donc elles ont besoin de réguler les quantités d'eau qui sont à l'intérieur de leur organisme. Donc en fonction des conditions de sécheresse, elles vont plus ou moins permettre la transpiration ou la bloquer au contraire pour garder l'eau à l'intérieur.
Alors est-ce qu'on peut parler d'intelligence ?
Absolument pas. Il n'y a absolument aucun système pour chez les plantes qui leur permette de concevoir, de conceptualiser leur environnement. Donc en fait, c'est des systèmes qui sont mis en place au cours de l'évolution et qui ont permis aux plantes de s'adapter à leur environnement.
Alors à vos côtés, Xavier Der, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Alors vous travaillez sur les signaux chimiques que les plantes envoient aux autres plantes et aussi aux animaux. Alors est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ?
Bien oui, ces signaux permettent aux plantes, ce sont des composés organiques qui sont volatiles, donc qui sont transportables par l'air, et elles les utilisent pour attirer des insectes pollinisateurs ou pour attirer des insectes qui vont les débarrasser de leurs ennemis, des chenilles, des insectes qui mangent les feuilles, par exemple, des phytophages. Mais elles peuvent aussi s'en servir. Elles peuvent, lorsqu'elles sont attaquées, elles peuvent émettre des composés, ces mêmes composés chimiques qui vont mettre en état de veille les plantes voisines qui, lorsqu'elles seront à leur tour attaquées par un insecte, admettons, répondront de façon plus efficace contre l'agression.
Alors les plantes sont même capables d'identifier l'agresseur par la salive. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne vont pas émettre les mêmes molécules pour avertir les voisines, on va dire, si c'est une chenille ou si c'est une sauterelle.
Oui, il y a une certaine spécificité. Elles détectent des signaux chimiques chez leurs agresseurs, qu'il s'agisse d'insectes ou d'agents pathogènes. Et elles sont, donc, il y a une spécificité de réponse qui font qu'en effet, elles ne réagiront pas pareil si elles sont attaquées par le mildiou, un champignon ou par une chenille.
Donc elles émettent, on peut dire, des molécules par les feuilles, mais ça se passe aussi à l'intérieur du sol, au niveau des racines.
Oui, oui. Ça a fait l'objet d'une étude assez remarquable il y a une dizaine d'années où les chercheurs suisses ont montré que lorsque les racines sont attaquées par des larves qui se nourrissent à leurs dépens, elles émettent un composé qu'on appelle le cariophyllène, qui est une substance odorante, qui attire des vers microscopiques, des nématodes, qui parasite la larve, qui attaque la chenille. Donc elles appellent véritablement au secours.
Voilà. Et ça marche.
Oui, ça c'est une fonction d'adaptation à l'environnement. Comme elles ne peuvent pas se mouvoir, elles se défendent à leur façon.
Donc Philippe Regnault, finalement, les plantes sont de vraies usines chimiques, mais est-ce qu'on peut véritablement parler de langage ?
De langage au sens où on l'entend, pas forcément. En tout cas, il y a des signaux.
On peut dire que les molécules sont des mots.
Certains, en tout cas, sont porteurs de sens au niveau mécanistique, au niveau de la mobilisation des réactions de défense, par exemple de la plante, lorsqu'elle est confrontée à un organisme qui lui est pas forcément favorable, un parasite, un ravageur, ou même lorsqu'elle est confrontée avec un micro-organisme qui vit en symbiose avec elle, par exemple. Donc il y a effectivement des signaux qui, très très tôt, dans leur confrontation, ou même avant même leur confrontation, sont impliqués et qui vont mobiliser ensuite toute une cascade d'événements qui vont aller jusqu'à l'établissement de relations qui peuvent être bénéfiques pour la plante, bénéfiques également pour l'autre micro-organisme. C'est ce qu'on appelle les symbioses. Il y a par exemple les mycorhizes, il y a aussi la fixation d'azote qui fonctionne un petit peu sous ce régime-là. Et puis il y a également des signaux qui sont mobilisés, comme l'a dit Xavier Der tout à l'heure, lorsque c'est au secours à la maison, lorsque la plante est attaquée, elle est capable de détecter des produits de l'attaque, soit des produits qui sont libérés par le parasite parce que c'est sa signature, soit des produits qui sont libérés par la plante parce qu'elle est dégradée. Donc la plante peut sentir ça d'une certaine façon, en tout cas elle est capable de percevoir les signaux chimiques qui sont libérés de cette façon-là. Et donc après, il y a toute une symphonie au niveau moléculaire qui est mise en jeu, assez complexe. Les connaissances avancent beaucoup, beaucoup en ce moment là-dessus, mais on se rend compte que plus on avance et plus le tableau est complexe, plus la symphonie est difficile à bien comprendre dans sa précision. Et voilà. Et après, le résultat de ça, bah, pour revenir à l'échelle qui est un petit peu celle qui nous concerne, eh bien, c'est soit une plante malade, soit une plante en bonne santé, soit une plante bon, qui est bien dans son environnement, en
Alors,
équilibre.
Bruno Mouliac, vous connaissez peut-être, hein, puisqu'il est chercheur aussi à l'Institut national de la recherche agronomique, affirme, lui, qu'on peut vraiment parler de langage. Et il prend l'exemple des antilopes kudu d'Afrique du Sud. Vous connaissez cette histoire ? Non, vous me regardez là, avec des airs un peu interrogatifs, Xavier Dair.
Oui. De mémoire, je crois qu'en fait, les plantes deviennent indigestes pour les antilopes.
Voilà, c'est ça.
Après que les premières plantes ont été broutées, c'est ça ?
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans les années 80, il y a des zootechniciens qui ont tenté de créer un élevage d'antilopes en Afrique du Sud. Ils les ont placés dans un enclos avec une quantité suffisante d'acacia pour se nourrir, mais elles sont mortes de faim, le ventre bourré de feuilles. Et en fait, ce sont des botanistes qui ont levé le mystère en découvrant que quand il est secoué, l'acacia produit du tanin qui rend ses feuilles indigestes et il émet un gaz pour alerter ses semblables qui font la même chose. Ça ressemble quand même à de la communication.
Oui, c'est une forme de communication. Après, bon, on sait maintenant, c'est parfaitement prouvé que lorsqu'on blesse par exemple des plantes dans un endroit et si on leur blesse les feuilles, eh bien, les plantes voisines peuvent percevoir les composés volatiles qui sont émis lors de la blessure et devenir plus résistantes ou réagir aux signaux envoyés par les premières plantes attaquées. Ça, c'est établi.
Yvan Crépiel, toutes ces découvertes et ces recherches sont relativement récentes, finalement. On parle de quoi ? Du milieu des années 90 ?
Oui, un petit peu avant. Toutes ces molécules impliquées dans la signalisation ont été découvertes au fur et à mesure des études. Donc, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on connaissait quelques molécules qui avaient été découvertes aux alentours des années 40-50. Et puis, le catalogue de molécules s'allonge au fur et à mesure des études. Et on commence à mettre en évidence, en effet, des signaux qui sont de plus en plus spécialisés, avec des interactions de plus en plus complexes qui permettent toutes ces réponses.
Alors Philippe Regnault, est-ce que c'est parce que nos outils se sont améliorés ?
Oui, indiscutablement. C'est vrai que les méthodes d'investigation sont vraiment devenues de plus en plus performantes. Maintenant, on est capable à la fois d'aller très très profondément, si vous voulez, dans la description des mécanismes au niveau moléculaire qui sont impliqués. Et puis en plus, on a des outils maintenant qui permettent de drainer des quantités de données à l'échelle non plus du gène, mais du génome et même de la communauté de génome. Hein. Donc tout ça fait que dans ces deux directions-là, les connaissances s'accumule à très très grande vitesse, ouais, tout à fait.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones ? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir ?
Pour nous écrire, cestpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison. Nous parlons du langage des plantes aujourd'hui avec nos invités. La France, première puissance agricole européenne, vient de présenter une nouvelle version de son plan éco-phyto qui vise à enfin réduire l'usage des produits phytosanitaires dont elle est la plus grande consommatrice. Je dis enfin car malgré les plans antérieurs, leur utilisation ne baisse quasiment pas. Un budget sera alloué à la recherche pour identifier des voies alternatives. Alors messieurs, est-ce que l'on pourrait utiliser vos connaissances sur les langages entre les plantes pour limiter justement l'utilisation de ces produits, pour imaginer par exemple une autre façon de faire de l'agriculture ?
Oui, vous avez tout à fait bien posé le problème. Il s'agit de remplacer une chimie relativement lourde et conventionnelle, une chimie de synthèse, avec une autre chimie qui se veut un petit peu plus verte. Encore qu'elle n'est pas toujours forcément déconnectée de la chimie davantage conventionnelle. Mais en tout cas, il y a quand même une idée de transfert entre deux types d'approches. Et puis, l'idée, c'est d'utiliser ces connaissances qui, dans le domaine-là en particulier, d'utiliser ça pour lutter contre les maladies des plantes, ont émergé à partir d'un concept qui date de la toute fin des années 70, début des années 80. Les connaissances ont commencé à s'accumuler assez intensément dans les années 90. Et puis aujourd'hui, effectivement, on en est au stade de la perspective de l'application.
Alors donc, l'idée, ça serait quoi ? De décoder, comme vous le faites, hein, tous les trois, vous travaillez là-dessus, à décoder finalement le langage guerrier des plantes, identifier les molécules qu'elles sécrètent pour stimuler leur résistance naturelle ?
C'est exactement ça. Il s'agit un petit peu d'utiliser les mécanismes naturels de défense des plantes qui ont lieu systématiquement dans la nature, dans l'environnement. Chaque fois qu'une plante est attaquée, elle l'est très souvent, elle mobilise des défenses. Et donc ce qu'on veut, c'est décortiquer un petit peu les signaux qui sont mobilisés dans le cadre de la mise en place de ces défenses, les isoler et puis les réutiliser, les réappliquer sur les plantes pour les rendre un petit peu plus gaillardes lorsqu'il y a une infection néfaste qui s'annonce.
Quoi. Mais en même temps, certaines molécules peuvent être de vrais poisons.
Oui, je crois que malgré l'accumulation des connaissances, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait l'effet, ça restera vrai. Et il faut être vigilant, c'est pas parce qu'une molécule est naturelle qu'elle est complètement dépourvue de tout effet non intentionnel. Mais bon, malgré tout, les molécules en question qui sont impliquées dans ces défenses, ce sont très souvent des sucres, plus ou moins complexes, ce sont des peptides, ce sont des dérivés de lipides. Voilà, ce sont les molécules qui nous constituent, qui sont vocation à être biodégradables. On trouve l'acide salicylique, qui est la molécule de base de notre aspirine, il y a le peroxyde d'hydrogène que nous on appelle l'eau oxygénée. Les plantes se soignent un petit peu avec les mêmes médicaments, hein, si on veut pousser l'image un petit peu plus loin. Mais voilà, donc ce sont des médicaments, pas des médecins de grand-mère, mais en tout cas un petit peu plus éco-compatibles qu'on essaye d'utiliser de cette façon-là. Alors, sachant que le mode d'action, je termine juste là-dessus, est quand même fondamentalement différent du mode d'action des produits qui sont utilisés jusqu'à maintenant de façon massive. C'est vraiment la plante que l'on veut fortifier et ce n'est plus le parasite que l'on veut attaquer. Il y a vraiment une philosophie différente à la base et ça, c'est important de le souligner.
Et c'est là où, en effet, ça appelle à une autre façon de faire de l'agriculture, puisque jusque-là, on utilisait des produits phytosanitaires de façon un peu massive et un peu les mêmes pour tous. Donc là, il va falloir finalement réapprendre à regarder la nature. C'est une bonne nouvelle, ça, Philippe Regnault ?
Oui, c'est une bonne nouvelle, à long terme, certainement. À court terme, ça pose énormément de problèmes, ça complique beaucoup, ça apporte beaucoup de technicité nécessaire. Il va falloir intégrer beaucoup plus de paramètres à chaque instant de la culture.
Bon, par exemple, les agriculteurs sont formés aujourd'hui
Pour l'émergence de ces nouvelles stratégies, la formation elle est un petit peu plus diffuse parce que les choses ne sont pas encore formalisées, parce que c'est un secteur qui est un peu en train de se mettre en place. Mais il y a chez les agriculteurs une vraie curiosité quand même. Il m'arrive, pas souvent, mais quand même régulièrement dans l'année, d'être autour de la table avec eux. Et il y a une vraie curiosité. Ce sont eux les premiers concernés. D'abord parce qu'ils veulent des cultures de qualité. Et puis parce que ce sont les premiers exposés aux effets maléfiques éventuels des pesticides. Donc il y a une vraie curiosité. Et je suis souvent étonné par le caractère extrêmement pertinent des questions qu'ils posent. Non seulement en termes concrets, mais y compris également au niveau de l'idée générale. Et qu'est-ce que ça va impliquer sur la façon de travailler. Bon, personnellement, avec les collègues de l'Université du Littoral à laquelle je travaille sur le blé, mais il s'agit de discuter également avec des viticulteurs, avec des producteurs d'autres cultures, les maraîchers, les gens qui font des cultures sous serre, qui sont peut-être à la pointe dans l'utilisation de ce type de problème, sont particulièrement informés déjà, je trouve. Ouais.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission. Vous pouvez nous réécouter en podcast grâce à l'application Pure Radio, sur la page internet de l'émission www.rfi.fr et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux hashtag CPDV tout simplement. Vous découvrirez des bonus et vous pourrez échanger avec nous, alors n'hésitez pas. Prenez soin de vous et des vôtres.
Montmartre. On se retrouve la semaine prochaine. Même planète, même heure.